Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est la France qui relève le niveau Vigipirate après l'attentat de Moscou qui a fait 137 morts vendredi soir. Le gouvernement est passé au niveau urgence attentat, c'est le plus haut niveau possible. Mais concrètement, ça va changer quoi dans notre quotidien, Rémi?
En fait, ce niveau permet de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires et des lieux de culte, tout comme dans les transports et à proximité des bâtiments publics. Très concrètement, des patrouilles supplémentaires de la force Sentinelle, des militaires, seront mises en place, les fouilles de sacs ou filtrages multipliés. Au total, ce sont 300 mesures exceptionnelles, contraignantes pour prévenir tout risque d'attentat qui sont prévues pour une durée qui se doit théoriquement d'être très limitée dans le temps. Je l'ai dit, ce sont des mesures exceptionnelles. Cela concerne l'ensemble du territoire national. Ce niveau, il a été créé en 2016, le niveau d'urgence attentat, mis en place pour la dernière fois en octobre 2023, en octobre dernier, c'était après l'assassinat de Dominique Bernard, poignardé à mort dans le lycée d'Arras où il enseignait. Le plan Vigipirate est ensuite redescendu au seuil sécurité renforcée risque d'attentat mi-janvier. Lui aussi était censé durer pour une durée limitée. Mais là, donc, clairement, on est placé un cran au-dessus.
Alors, êtes-vous inquiet après ce relèvement du niveau du plan Vigipirate, Thierry Moreau?
Pas inquiet, mais je pense qu'il faut être vigilant. Le problème, c'est que vous savez comment c'est dans le traitement à la fois des chaînes Tout Info, dans l'opinion, etc. Une actu chasse l'autre. Et c'est vrai qu'on a un peu eu tendance à mettre ça au second plan, parce qu'il y a eu l'Ukraine, parce qu'il y a eu les crises internes à notre société française, sur notamment la crise agricole. En fait, cette menace, elle a jamais cessé. Il y a eu Bir Hakeim, il y a eu Arras, comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure. Et en plus, la branche qui serait responsable, parce qu'il faut évidemment parler au conditionnel de ce qui s'est passé à Moscou, serait la même que celle qui aurait commis des attentats, c'est ce que le président a déclaré il y a quelques minutes. Mais aussi, et ça a été documenté, c'est la même branche qui aurait aussi fomenté des tentatives d'attentats en Allemagne, dont la dernière a eu lieu le 19 mars. Donc c'est quelque chose de très 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 récent. Donc effectivement, il faut être vigilant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'État islamique a bénéficié du retrait et puis du fait que les États-Unis et aussi les grandes puissances occidentales se concentrent sur l'Ukraine et ont sans doute un peu délaissé géographiquement déjà en quittant certains pays il y a déjà plusieurs années, mais aussi en termes de moyens, je pense ces théâtres d'opération qui doivent rester fondamentaux pour nous. Donc c'est un retour à la réalité, je dirais, plus qu'une inquiétude ou une vigilance.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut changer nos comportements, redoubler de vigilance ou essayer de vivre comme avant? Parce que finalement, cette menace, même si elle était peut-être moins élevée avant, elle a toujours existé. Et Emmanuel Macron vient de le dire, il y a eu encore des attentats qui ont été déjoués en France,
En octobre dernier, Gérald Darmanin, qui était interrogé devant le Sénat, avait indiqué que ces dernières 5 années, 43 attentats islamistes ont été déjoués en France. Ça fait un attentat déjoué tous les mois et demi.
Moi, je pense que bien sûr qu'il faut que chacun soit inquiet. C'est une menace qui plane sur nos têtes depuis des décennies maintenant. De temps en temps, on se relâche. Et puis, de temps en temps, il y a même des pays qui tiennent pas compte des avertissements. Regardez la Russie. Vous savez, tous les gens qui disent il faudrait un État fort en France, un homme providentiel, il faudrait qu'on restreigne les libertés des uns et des autres, parce que le pays serait bien dirigé, serait bien sûr. Ils ont été prévenus qu'il allait y avoir des attentats. Les Américains les ont prévenus. Mais non, comme ils sont focalisés sur l'Ukraine, ils ont dit, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge une oreille, qui dit quelque chose sur Poutine, il finit au goulag. Mais résultat des courses, ils ne sont pas occupés de la sécurité de leurs concitoyens, alors qu'ils ont été prévenus. Moi, je préfère être dans une démocratie où on écoute les signaux faibles comme les signaux forts et on fasse tout pour l'éviter. Rémi a raison de le dire, il y a des dizaines d'attentats qui sont régulièrement évités. On n'en parle pas, c'est normal. Mais on sait tous qu'il y aura à nouveau un attentat à un moment ou un autre. L'idée, c'est d'être chacun vigilant, de compter aussi sur les pouvoirs publics qui ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles, il faut l'avoir en tête, mais il faut essayer de réduire au maximum le risque. Quand on voit un bagage abandonné, ce n'est pas juste forcément un étourdi. Il faut prévenir. Quand on voit quelqu'un qui a un comportement un peu dérangé, parce que ce n'est pas souvent des mecs qui ont Bac plus 12 qu'on fait venir de l'autre bout du monde pour le faire. C'est aussi des gens dérangés qu'on essaye on retourne le cerveau en quelques heures et ils viennent. Il faut prévenir. Il vaut mieux avoir l'air stupide en prévenant inutilement en alertant inutilement que de se prendre un type qui va y aller à la Kalachnikov ou au couteau. Et donc, nos démocraties sont elles aussi armées pour faire ça, peut-être parfois plus que les dictatures.
Emmanuel Dancourt, Rémi l'a rappelé, hein, le plan Vigipirate urgence attentat, ça signifie aussi que la sécurité va être renforcée aux abords des écoles. Est-ce qu'on ne devrait pas en profiter, entre guillemets, pour enfin mettre des portiques de sécurité devant les établissements, à l'entrée des établissements?
Alors, je ne sais pas si on a le budget pour ça. Déjà, dans un moment où on est en train de restreindre le budget de toutes parts.
Ça coûterait pas, c'est pas ce qui coûterait le plus cher.
Moi, je suis pas sûre qu'on se relâche, comme tu disais, Jérôme. En tout cas, je pense que ceux qui sont en charge de notre sécurité ne se relâchent pas du tout, que nous, on est un peu oubliés depuis 30 ans. Peut-être, ce qui moi n'est pas mon cas, parce que je suis beaucoup dans les transports et que tu vois vraiment, enfin, le plan Vigipirate, tu vois qu'il est là. Et tu as raison, quand tu dis qu'il faut faire attention aux bagages oubliés, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait bloquer tout le hall 3 de la gare de Lyon parce qu'il y avait une valise posée au milieu.
Ah, c'était toi?
C'était moi. Non mais je t'assure, c'est flippant, tu vois la valise toute seule, tu dis attends, qui vraiment oublie sa valise? Ça peut arriver, t'as les gamins, machin, etc. Mais tu prends pas le risque, tu préviens les services de l'ordre. Il boucle, c'est très très rodé. Il faut quand même savoir que ça date d'il y a 30 ans quand même, cette menace. Ça, c'était 1994 à Marignane, quand il y a eu le détournement d'avion. C'était un attentat de Daesh et que le GIGN avait donné l'assaut. Je pense que vous vous souvenez de ça. Puis après,
95 Saint-Michel.
Après il y a eu Saint-Michel. Il y a eu de multiples choses derrière. Tu as parlé tout à l'heure du pont Bir Hakeim, mais effectivement, l'attentat au couteau du pont Bir Hakeim, on avait retrouvé dans l'ordinateur de l'assaillant un lien avec cette branche spécifique de Daesh, qui est une branche spécifique qui est sur l'Asie centrale, qui est sur les anciennes républiques musulmanes soviétiques comme le Tadjikistan, c'est sur l'Afghanistan aussi, ils sont présents partout et on sait qu'ils sont présents en France. On le sait puisqu'il y a eu des attentats et encore il n'y a pas longtemps, là en Allemagne, ils ont déjoué un attentat. C'était des mecs qui voulaient aller devant le Parlement en Suède, tirer à la mitraillette au hasard et ils ont réussi à... Donc est-ce que toi
tu dis, voilà, il y a aussi une menace qui pèse sur les établissements scolaires. Il y a quand même, dans les récents attentats, il y a eu des établissements scolaires qui étaient touchés, je pense à Dominique Bernard. Est-ce qu'à un moment il faut renforcer encore plus la sécurité et mettre des portiques à l'entrée? Ça éviterait au moins les armes, hein.
Écoute, moi dans dans le lycée de mes enfants, il y a un contrôle des sacs à 8h et il n'y a plus de contrôle des sacs à partir de 9h. Donc quand tu prends à 9h ou à 10h, rien que déjà contrôle de ça, hein.
Les grilles sont fermées en dehors des heures de rentrée des classes. Les grilles sont fermées.
Mais peu importe.
Moi, mes neveux-nièces, ceux qui sont dans une école primaire. T'as
Si c'est un assaillant qui arrive, tu vois bien qu'il y a un différentiel avec les enfants.
Ce que je veux dire, c'est que comme dans les aéroports, ouais, à l'entrée des établissements, ça n'évitera jamais le type qui vient avec une Kalachnikov et qui fait une rafale pendant que tous les gens attendront de passer au détecteur pour rentrer dans l'école.
Tout à fait, d'accord.
C'est le phénomène des queues qu'il faut éviter. Mmh. C'est pour ça qu'on essaie de élargir le périmètre. Moi, j'ai connu une époque où tu pouvais te garer ta voiture devant l'entrée des écoles. Maintenant, il y a des barrières partout.
Toujours, hein.
C'est interdit.
Non, il y a des barrières devant toutes les écoles.
C'est interdit partout devant les écoles.
Bah oui.
C'est interdit.
Sinon,
sinon, c'est que ton maire fait pas son boulot.
Pas du tout. Hein. Moi, je me suis toujours garé devant la grille de l'école primaire de mes gamins.
Non, tu peux déposer, mais tu peux pas laisser une voiture.
Exactement.
C'est interdit de stationner.
On a même un parking pour ça, donc.
Alors, je sais pas où tu habites, mais ils ont un problème d'organisation.
Non, il y a plein d'écoles.
Ça coûte assez cher aux mairies de réaménagement de tous les périmètres des écoles. Dans Paris, on le voit, il y a des écoles à 500 mètres d'ici. Je passe devant régulièrement. C'est strictement interdit et tu dois sonner. Ce qu'il faut faire attention, c'est sur le fond, t'as une bonne idée de dire, mais il faudrait détecter. Le problème, c'est que quand tu fais un truc comme ça, tu fais stagner des gens sur les trottoirs et t'as un abruti qui passe avec la voiture, il baisse la vitre.
Vous pouvez le faire dans les gares aussi, tu vois.
Et il accélère.
Mais dans les gares, ce serait possible.
Regarde,
hein,
un truc dans les gares maintenant. Si tu prends les gares parisiennes, pas les gares de province, mais les gares parisiennes, si tu veux monter dans ton TGV,
tu dois montrer.
Il y a que ceux qui ont le billet.
Tu peux être terroriste et avoir acheté un billet. Hein. Enfin, je veux dire,
donc le risque zéro, on est bien d'accord.
Sauf que si tu avais des portiques au-dessus, par exemple, dans les gares, quand tu dans les gares parisiennes, quand tu scannes ton billet, s'il y avait un portique de sécurité au-dessus,
c'est pour ça que dans l'aéroport, on doit arriver entre 30 minutes et une heure avant pour prendre l'avion.
Ça aura un coût quand même. J'ai regardé. Alors c'est un calcul vraiment.
T'as déjà chiffré toi.
Non mais j'ai vraiment fait ça au doigt mouillé parce que j'ai regardé le prix d'un portique. Alors ça dépend du type de portique, etc. Mais au bas mot c'est 2 000 euros un portique. Il y a 66 000 établissements scolaires.
France. Avec plusieurs entrées.
Avec plusieurs entrées. Moi, j'ai chiffré ça. C'est déjà, rien qu'à... C'est un chiffrage comme ça, c'est plus d'un milliard d'euros.
Mais Laurent Wauquiez avait voulu le faire dans les lycées, la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand il y avait eu des choses qui sont passées à l'intérieur des lycées. Je ne suis pas sûr qu'on ait dépassé le stade B expérimental.
Absolument.
Parce que c'est impossible. Et en plus, il faut des personnes assermentées pour vérifier les choses, qui aient fait une formation, etc. Ça devient juste ingérable.
Je voudrais qu'on prenne Thomas en ligne, qui nous appelle de Fayence, dans le Var. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ah, on vous entend très très mal Thomas, il faut parler tout près de votre combiné.
Alors, vous m'entendez mieux ?
C'est moyen. Vous savez quoi, Thomas ? On va vous rappeler. On va vous rappeler dans un instant, parce que là, la liaison, elle n'est pas bonne du tout. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste, j'ai l'impression que comme c'est une branche de Daesh qu'on ne connaît pas très bien en France, ou qu'on a l'impression de ne pas connaître, en tout cas, les médias n'en ont pas forcément spécialement parlé, on n'a pas fait attention, on a l'impression qu'il y a une nouvelle menace. Mais ce n'est pas une nouvelle menace. C'est comme quand on a découvert qu'il y avait des Tchétchènes en France. Alors, nous, on les a bien découverts à Dijon en 2018. Mais en fait, voilà, c'est une communauté qui est là, qui est présente depuis longtemps.
Alors notre invité sur ce débat, c'est Christophe Miette. Il est secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Bonjour Christophe Miette.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'il faut être en alerte ? Ou est-ce qu'il faut continuer à vivre comme d'habitude, Christophe Miette, en se disant que la police fait bien son travail ?
J'allais dire les deux, il faut continuer à vivre normalement pour pas que ces idéologies extrémistes gagnent sur nous, sur notre mode de vie. En même temps, il est inquiétant de voir que l'idéologie islamiste est toujours non affaiblie, malgré un recul sur le terrain depuis des années, malgré la perte des territoires Daesh et les guerres qui sont succédées. Il est vrai que nous avons de plus en plus d'auteurs jeunes qui adhèrent à ces idéologies et cette rhétorique bien connue contre la France ou les pays occidentaux, tels que le voile, la laïcité, ainsi de suite. Et nous avons des auteurs qui n'hésitent plus à passer à l'acte, soit en fonction d'actes d'opportunité, soit en fonction d'éléments de leur propre vie qui sont déclencheurs pour ce passage à l'acte. Maintenant, nous avons un tout, il faut continuer. Les policiers et les services de renseignement, la police judiciaire, et y compris les policiers de terrain, sont fortement sollicités, mais restent plus que jamais mobilisés pour essayer de maintenir cette vie à l'occidentale qui nous est chère, tout simplement.
Mais est-ce que ce plan Vigipirate urgence attentat, est-ce qu'il est suffisant ? C'est le grade supérieur, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin ou est-ce que c'est impossible ?
Tout est une question après de moyens et où on veut mettre la barrière. Ce risque d'urgence attentat a été créé en 2016 de mémoire et a été utilisé deux fois lors de l'attentat à Strasbourg et contre l'attentat de Dominique Bernard. Maintenant, on peut toujours faire plus, mais on va rentrer dans un état quasi militaire. Donc, est-ce que c'est bien ce qu'on veut ou s'attaquer directement sur le terrain avec les ressources nécessaires, avec une meilleure coopération entre les pays à l'international? Voilà, c'est une barrière à positionner pour notre vivre en France au niveau international, je pense.
Et alors c'est vrai que Emmanuel Macron disait que cette branche de l'aile justement avait déjà essayé de commettre des attentats en France. Gérald Darmanin, Rémi Barré le rappelait il y a quelques instants. Gérald Darmanin a rappelé qu'en fait il déjouait bon nombre d'attentats sur le sol français chaque mois. Est-ce qu'à un moment il faudrait pas se dire il faut vivre tout simplement avec ce plan urgence attentat et ne jamais le baisser finalement parce qu'on est toujours en danger?
Vous savez, depuis des années, depuis 2015, même l'attentat Mera, nous succédons au niveau des plans vigilants.
Ah, on vous a perdu, là, Christophe Miette.
Allô ?
Ah, ça y est, c'est mieux. Allez-y. Oui.
Non, j'étais en train de vous dire que depuis l'affaire Mera, au début des années 2010, on continue, on augmente de plus en plus ce plan Vigipirate. Oui, il faut apprendre à vivre avec ce risque. Oui, il faut se protéger. Oui, il faut tous être vigilants. Nous sommes tous vigilants et nous avons un rôle dans la société à se méfier, à regarder, à signaler. Mais voilà, si on s'arrête dès demain, c'est Daesh, c'est les terroristes qui gagneront. Donc oui, il faut faire preuve de vigilance. Il faut investir la sécurité à un prix. J'entendais tout à l'heure concernant les portiques. Oui, ça coûte 1 milliard, mais peut-être il va falloir passer par là pour les écoles, pour sécuriser les lieux de culte également. La sécurité a un coût et c'est une affaire du quotidien de tous.
Merci beaucoup en tout cas Christophe Miette d'avoir été notre invité sur ce débat. Vous êtes très nombreux à intervenir. On va tout de suite donner la parole à Thomas qu'on a retrouvé, Thomas de Fayence dans le Var, qui est manager dans l'informatique. Bonjour Thomas. Thomas, est-ce que vous êtes inquiet depuis le relèvement du niveau du plan Vigipirate?
Alors, pas plus, mais pas moins, en fait.
D'accord, ça ne change rien pour vous.
Non, dans le sens où, en fait, depuis les années 2000 maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants. La solution, pour moi, elle vient de nous, en fait. On ne peut pas mettre un policier devant toutes les portes d'école. On ne peut pas non plus les mettre à tous les carrefours parce qu'il faut surveiller les gens qui conduisent mal. On ne peut pas en mettre dans tous les endroits des aéroports ou des zones de transport. Donc, à un moment donné, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Et se prendre en main, ça ne veut pas dire devenir tous des guerriers ou des tueurs sanguinaires. Ça veut peut-être dire monter notre niveau de vigilance. Finalement, quand on vous disait avant, faut crier au feu parce que si vous criez à l'agression, personne ne viendra. Ben c'est un peu ça qu'il faut tuer et il faut revenir à quelque chose où on s'entraide les uns les autres. Voilà.
Et vous, Thomas, vous êtes instructeur de Krav Maga, ça vous formez des adultes et des enfants à l'autodéfense. Est-ce que finalement, on devrait tous se mettre à l'autodéfense?
Complètement. D'abord parce que ça calmerait tout le monde et dès le collège en fait. Parce que, par exemple, la boxe ou le judo ou ce type de sport permettrait de calmer les esprits un peu bagarreurs de certains, ce qu'on appelle les bullies. Hein. Là, un bully, c'est un gamin qui a finalement qu'embête les autres. Et,
oui, mais là, je parle par rapport à des attentats. Est-ce qu'on devrait tous... Parce qu'en fait, ça augmente aussi la vigilance quand on fait les arts martiaux, mais...
Non mais exactement en fait, ça permet à tout le monde de retrouver un petit peu l'instinct primaire de se défendre physiquement. On nous a demandé d'arrêter, on nous a demandé de faire confiance à la police, on nous a demandé de faire confiance à l'État, à la justice, et on voit bien que tout ça a ses limites. Et donc revenir finalement à quelque chose de un peu plus animal, sans non plus sombrer de l'autre côté, hein, c'est-à-dire apprendre à se défendre et se défendre contre tout type d'agression, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, savoir dire stop. La police peut pas être partout, vos amis peuvent pas être partout, donc ça devient très très compliqué. Et là aujourd'hui, on a affaire à des gens, quelle que soit leur motivation, qui sont des fous. Donc il y a pas, on peut pas raisonner avec des fous.
Enfin, cela dit, même si vous êtes expert en art martial, si quelqu'un arrive avec une Kalachnikov...
Non, on ne parle pas d'expertise, on parle de réaction et de vigilance.
C'est ça.
Quand vous montez dans faire un peu confiance à votre instinct, c'est-à-dire que quand vous montez dans un métro, si vous n'aimez pas la rame, si vous n'aimez pas quelqu'un, il y a un sixième sens qui vous dit « j'aime pas la situation, quittez-la ».
Ouais, c'est vrai, alors, vous avez raison.
Aujourd'hui, on se laisse embarquer dans le système...
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos enfants. Si tu vois un mec bizarre dans le métro, il change de rame, quoi.
Oui, quand vous arrivez dans un restaurant, vous aimez pas la table où vous avez d'aller de serveur, vous avez le choix de dire maintenant j'en voudrais une autre ou je quitte. C'est pas être complètement fadabrac, c'est rentrer dans un supermarché à midi, savoir que vous allez y passer toute la journée parce que c'est les grands malls et que c'est Noël, et que quand vous allez ressortir, il va être minuit. L'importance de savoir où vous stationnez votre véhicule, c'est pas être un guerrier, ça. C'est avoir du bon sens, c'est avoir un minimum de vigilance. Voilà.
Voilà, on devrait tous être en hyper vigilance. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Des messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Allez, un message, par exemple, de Tino Bois, c'est son pseudo sur Direct Studio, qui nous dit « Contrôle drastique à nos frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires. Vous verrez qu'il y aura déjà moins d'armes qui se baladeront en France, donc moins de possibilités d'attentats. C'est une question de volonté politique.
Enfin, » ils sont faits, les contrôles.
Et puis, ce message de Ludo, qui nous dit « Oui, c'est fait. » Sauf que Ludo temporise. Moi, je viens juste de prendre le Thalys à Charles de Gaulle. Aucun contrôle d'identité, aucun portique. Je vous embrasse.
Oui, évidemment. Oui, alors que le Thalys a été témoin d'un attentat il n'y a pas si longtemps que ça. On vous a posé la question, alerte attentat en France, êtes-vous inquiet? Rémi, ça donne quoi?
Allez, on est dans la marge d'erreur là. C'est oui pour 51% de ceux qui font prononcer sur nos réseaux sociaux.
Ah, les Français qui veulent continuer à vivre comme avant, finalement, être vigilants, mais continuer à vivre normalement.
On ne voit pas ce qu'il
dit. Exactement.